Alors, bien sûr, le cours est dédié à l'Eilui Nishmato du papa de Nouri, Yosef
Ben Garaz.
Ben Garaz.
וגם
הילד
חי בנימין
בן
נסטר ג'ורג'ה
סיפר איפה? לעילוי נשמת
לעילוי נשמת
חי בנימין
בן
נסטר ג'ורג'ה
ויוסף בן ג'וליה
יוסף בן ג'וליה Alors, on va essayer, si vous voulez, de réfléchir sur ce thème dans un temps record. Il faut. C'est la paracha qu'on a lu un petit peu la semaine dernière, d'ailleurs. On n'avait pas choisi le thème en fonction de la paracha, mais on tombe par rapport à Béchalar, par rapport à Yitro. C'est que c'est un événement un petit peu spécial. On a expliqué déjà des centaines de fois que quand on lit la Torah, il ne s'agit pas d'un livre d'histoire. La Torah, c'est pas. C'est Oraita, c'est un livre d'enseignement. Et qu'on peut prendre un événement entièrement en dehors de son contexte. Il va être quand même une source d'enseignement. Et si la Torah l'a retenue, c'est justement parce qu'on peut en tirer un enseignement. Alors maintenant, il y a un épisode bizarre. Qu'après que les bénis d'Israël sont sortis d'Égypte, ils arrivent devant la mer. Et quand ils arrivent devant la mer, là-bas, il y a un dialogue un peu bizarre qui s'installe entre eux et Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans le pasouk. Vayomru el Moshe, amibli el kevarim bemitzraim, lakartanu lamut bamidbar. Regardez un petit peu le langage. Maintenant, les bénis d'Israël, ils arrivent devant la mer. Ils entendent un bruit énorme derrière eux. Ils voient de la fumée. En fin de compte, c'est quoi hein? C'est les Égyptiens qui viennent pour les massacrer. Des milliers d'Égyptiens qui viennent pour les massacrer. Derrière eux, devant eux, il y a la mer. Il dit le Midrash, le Rashi rapporte, à leur droite, il y a des bêtes sauvages. Et à leur gauche, il y a des falaises. Ça veut dire qu'ils sont bloqués. Ils sont pris devant une situation bloquée. Il s'adresse à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'ils lui disent ? Pourquoi tu nous as emmenés dans le désert ? Pourquoi tu nous as amenés ici pour mourir ? Est-ce qu'il n'y avait pas des tombes en Égypte ? Tu nous as pris pour mourir dans le désert. Mazot asitalanu lotienu mitzraim. Qu'est-ce que tu nous as fait de nous sortir d'Égypte ? Ça, c'est un langage qui est difficile à comprendre pour nous. Parce que l'Égypte, d'après ce qu'on voit dans les Midrashim et dans les commentaires, c'était comme Auschwitz, c'était comme Dachau. Ils tuaient les gens pour rien. Pour faire rouler les pierres, ils mettaient des corps en dessous. D'accord ? Le travail des femmes, ils donnaient aux hommes, les hommes aux femmes. Quand ils finissaient de travailler au champ, le soir, ils devaient travailler pour les Égyptiens chez eux. On les réveillait en pleine nuit, on leur versait de l'eau bouillante sur la tête. Quand l'homme il partait au travail, le surveillant il violait la femme. Quand il manquait des pierres dans les murs, on mettait des bébés. Ça veut dire que c'était vraiment les camps de la mort. Alors si vraiment c'était la mort à ce point... Comment ils ont pu dire à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu ne nous as pas laissé en Égypte ? C'est bizarre. Comment ils ont pu regretter ? On peut regretter l'Égypte. Est-ce que quelqu'un il peut regretter Auschwitz ? On peut regretter, c'est impossible, c'est bizarre. Pire encore, il a dit, « Ve'alois ze'adavar asher dibarnu elecha. » Regardez le langage. Il dit, mais pourtant, c'est ça ce qu'on t'avait dit. « Bemitzraim en Égypte. » Quand tu es venu pour nous dire, « Vous allez sortir d'Égypte. » Qu'est-ce qu'on t'a dit ?« Chadal mimenu, écarte-toi de nous. » Ça veut dire, « Laisse-nous tranquille, ne nous prends pas la tête, arrête de nous saouler. » Il dit pourquoi ? Vena'avda et Mitzrayim, et nous allons servir l'Égypte. On veut être esclaves en Égypte. Qui tov lanu avod Mitzrayim et Mitzrayim mimotenu bamidbar. Parce que c'est mieux pour nous d'être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Il est bizarre ce langage. En vérité, si on approfondit un petit peu et qu'on relit, on relit. Encore une fois, il faut sortir les choses de leur contexte. Parce que sachez que la Torah n'a retenu que les passages qui sont nécessaires pour être des enseignements. Donc, oubliez l'histoire, oubliez l'archéologie, oubliez l'ordre des choses. Maintenant, relisez le texte. On sait, nous, que Mitzrayim, c'est pas un langage qui parle de l'Égypte. Des fois, la Torah dit Eretz Mitzrayim, des fois, la Torah dit Mitzrayim. Mais nous, on sait que Mitzrayim, en hébreu, c'est les mêmes lettres que le mot Metzarim. Et Metzarim, c'est les limites. Donc, quand quelqu'un, il parle de l'esclavage des limites, c'est-à-dire qu'un homme, il est esclave de sa petitesse. Il est esclave de lui-même. Il est esclave de son orgueil, de ses envies, de sa bestialité, du côté animal qui est chez lui. Il dit maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici ? Quand on veut libérer quelqu'un de sa petitesse, quelqu'un qui est orgueilleux, ouais, on veut le libérer. Quelqu'un qui est complexé, on veut le libérer. Un enfant qui est en échec scolaire, on veut le libérer. Qu'est-ce qu'il dit ? Radan mimeno. Laissez-moi tranquille. Arrêtez de me casser la tête. Arrêtez de me saouler. Ouais, quelqu'un qui a un problème de couple, qui est bloqué par son orgueil. Monsieur, il croit qu'il a toujours raison. Madame, elle croit qu'elle a raison. Elle s'enferme à l'intérieur de son problème et elle répond à l'autre. Khadan mimeno. Mais là, ça va encore plus loin. Elle dit, et nous allons être esclaves. Ça veut dire que la personne, elle désire cet esclavage. je vous ai expliqué déjà plusieurs fois, mais comme il y a des gens que je vois, des gens que je ne vois pas, ça va vous faire une petite répétition pour ceux qui ont l'habitude de venir. C'est que souvent les gens, on essaye de les libérer, alors qu'en vérité, eux-mêmes, ils sont complices de leur esclavage. Il y a des gens, ils sont complices de leur maladie. Il y en a, ils sont complices de leur dépression. Il y en a, ils sont complices de leurs problèmes de travail. Oui. Celui-là, il te dit, oui, il a parlé à ça, c'est difficile. Mais il ne se lève pas le matin. Il triche, il ment. Tu n'as pas un problème de parler à ça. Tu as un problème de malhonnêteté. Tu as un problème de paresse. C'est pas un problème de parler à ça. Ça veut dire quoi? C'est que la personne, tu crois que tu veux l'aider, alors qu'en vérité, elle est bien en Égypte. Elle est bien dans son esclavage. Elle-même, elle veut la preuve. C'est ça que c'est marqué dans le langage. Qui tov l'anou avod et mitzraïm. C'est mieux pour nous d'être esclaves d'Égypte. Alors j'avais expliqué déjà plusieurs fois que le mot tov dans la Torah, il veut toujours dire complet. Quand c'est marqué tov, oui, par exemple, à la fin de la création du monde, quand Hachem il a terminé, il a dit ve'iné tov me'od. Parce que c'était très bien. Donc tov, ça veut dire complet. Un homme et une femme, quand ils se marient, on dit mazal tov. Ça veut dire que le mazal, il est complet. Donc tov, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un va, tout va bien dans sa vie, il dit kol tov. Kol tov, ça veut dire quoi? A kol shalem. Parce que tov, ça veut dire shalem. Si c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire ici? Que eux, ils ont dit tov lanou avod et mitzraim. Ça veut dire que, comme on dit en français, il se complète à l'intérieur. Il se complète. Il se complète, ça veut dire il se complète à l'intérieur. Oui, il est shalem à l'intérieur. Un alcoolique, il est shalem avec l'alcool. Tu veux lui enlever l'alcool. Il te dit, mais je ne sens plus rien. Un orgueilleux, il est chaleur avec l'orgueil. Tu lui enlèves l'orgueil, il vaut plus rien. Quelqu'un qui est un vrai orgueilleux, quand tu lui dis, bon, il faut un peu baisser, il dit, alors que je suis nul, alors je ne vaux rien. Pourquoi quelqu'un, quand tu lui enlèves l'orgueil, il ne reste plus rien? Au contraire, quand tu lui enlèves l'orgueil, il reste lui. Quelqu'un qui croit dans le mensonge, quand tu l'obliges à ne plus mentir, ou que tu le mets en face de la vérité, alors il est mort. Pourquoi? La vie, elle commence maintenant. Maintenant qu'il n'y a plus de shaker, maintenant qu'il n'y a plus de mensonge, la vie, elle commence. Pourquoi l'autre, il croit que quand on lui enlève le mensonge, il est mort? Cette notion, c'est quoi? Tov, l'anou, avod et mitzraïm. C'est mieux pour nous, ça veut dire quoi? C'est plus complet. On se sent plus en phase. On se sent plus en phase avec l'Égypte, avec la culture, avec la civilisation. Plutôt que quoi? Mimotenu ba midbar. Plutôt que mourir dans le désert. Pourquoi ils ont dit mourir dans le désert? Ils auraient pu dire que vivre dans le désert. C'est quoi le désert? Le désert, c'est une notion un peu bizarre. Le désert, c'est un endroit de l'essentiel. C'est quelqu'un qui part dans le désert. Il dit, bah, tiens, on va faire un voyage dans le désert. Quand tu pars dans le désert, tu ne vas pas venir avec toi ton canapé, ta chenille-fille, ta piscine. Tu prends le strict minimum. Le strict minimum. Tu prends des vitamines, tu prends de l'eau, tu prends ce que tu as besoin. Le désert, c'est l'endroit de l'essentiel. Ça s'appelle Midbar. Midbar, c'est l'endroit de l'essentiel. C'est pour ça que la Torah, qui est essentielle, elle a été donnée dans le désert. Dieu aurait très bien pu éclater l'Égypte, laisser les Bnei Israël là-bas et leur donner la Torah en Égypte. Il pouvait. Il pouvait leur donner la Torah en Eretz Israël. Pourquoi il a donné la Torah dans le désert? Bataille, c'est pas shoot. Parce que dans le désert, il n'y a personne. Il y a qui? Il y a toi. Il n'y a que toi. Alors quand tu as rendez-vous avec toi, c'est plus facile de rencontrer Dieu quand tu as rendez-vous avec toi que quand tu as rendez-vous avec tout le monde. Maintenant, l'Égypte, on a dit, c'est quoi? C'est les limites. Et Israël, c'est quoi? C'est une terre difficile. C'est une terre pour les adultes, c'est pas une terre pour les enfants. On a expliqué plusieurs fois que l'Ebné Israël était en Égypte. Après, il devait recevoir la Torah et rentrer en Israël. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y avait le désert. Pourquoi Hachem, il a fait passer l'Ebné Israël dans le désert? Alors, la logique, elle est comme ça. Que l'Égypte, elle ressemble à une prison. Ouais, il y a des lois. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est une grande prison, l'Égypte. D'accord? La Torah et Eretz Israël, c'est aussi une grande prison. C'est une très grande prison, la Torah. Ouais, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. T'es obligé de faire ça, t'es obligé de faire ça, t'es obligé de faire ça. Maintenant, quelle différence il existe entre la prison de l'Égypte et la prison de la Torah? C'est que la prison de l'Égypte, t'es obligé de l'extérieur. Alors que dans la Torah, c'est toi qui t'oblige. La différence entre l'Égypte et la Torah, c'est la maturité. Maintenant, remarquez bien que l'enfance, elle ressemble à l'Égypte. C'est une série de limites. Remarquez bien que la Torah, elle ressemble à l'adulte. Ça va, c'est la maturité. Et remarquez bien que l'adolescence, elle ressemble au désert. C'est la fin de l'enfance, ça n'est pas encore l'adulte et c'est le désert. C'est là que la personne, elle ressent la vraie solitude. elle veut plus être un bébé, elle rejette un peu ses parents, elle n'est pas encore entrée dans le monde des adultes, alors au milieu, elle est seule. Midbar, c'est le désert. Mais Midbar, c'est aussi les mêmes lettres que Medaber. Sarich Ledaber Imayeled. C'est à l'adolescence qu'il faut parler avec l'enfant. Il faut le faire parler, lui il doit être Medaber, et toi tu dois lui parler, et toi tu dois être Medaber. Il faut être Medaber. Si tu n'es pas Medaber, tu vas trouver quelqu'un à qui parler. C'est pour ça qu'on dit dealer aux enfants la vérité, sinon ils vont demander au dealer qu'est-ce qu'il en pense. Ouais. Il faut leur dire. Dis la logique, c'est quoi? Que tu lui parles. Tu lui parles. Et cette logique, c'est quoi? Que les bénis Israël, ils ont parlé. Hachem, il leur a parlé dans le désert. Il leur a parlé dans le désert. C'est un endroit où on parle. C'est qu'il y a quelqu'un qui a rendez-vous avec lui-même. Oui, c'est le moment de lui parler. Exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, il veut donner aux bénis Israël le désert, la Torah. Alors il veut leur donner où? Dans le désert. En français, on appelle ça un passage à vide. Oui, dans un couple, des fois aussi, on a un passage à vide. Il y a un passage à vide, ça devient un petit peu le désert pour toi et moi. Alors, Midbar, il faut parler. Il faut parler, il ne faut pas dire, bon, écoute, ça ne sert à rien, de toute façon, il ne comprend rien, de toute façon, on est folle, de toute façon, on est comme sa mère. Non, il faut parler, il faut être Medaber. Dans le désert, bah, Midbar, ça fait Medaber. Oui. Des fois, il y a un passage à vide au niveau du business. Ça ne va pas en ce moment, tu dis, ah, pourquoi je vais lui en parler, à quoi ça sert? Parle, parle, parce que si tu gardes à l'intérieur, tu vas te rendre malade. Des fois, il y a un passage à vide au niveau psychologique. Ça s'appelle un terrain de dépression. Terrain de dépression, c'est Midbar. Tu te sens seul, abandonné de tous. Tu dis, je ne peux compter sur personne. Midbar, Medaber, il faut parler. Vas-y, parle. Parle avec un thérapeute, parle avec quelqu'un qui t'aime, parle avec quelqu'un qui rave, parle avec quelqu'un qui t'écoute, ça suffit déjà. Ouais. Sois Medaber. Tu sais quoi cette logique-là? Ouais. Mais non, c'est pas facile de parler. C'est pas facile. C'est pas facile d'être un adolescent exilé. C'est pas facile d'être en dépression et de dire je vais m'en sortir. C'est pas facile d'avoir de l'orgueil et d'aller s'excuser devant sa femme ou devant son mari. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que s'excuser devant sa femme et casser son orgueil et se remettre en cause en tant qu'adolescent et assumer sa dépression, c'est mourir un peu. Et ça, c'est un phénomène bizarre. C'est que pour vivre, il faut être d'accord de mourir. Moi, j'ai toujours dit que les gens de valeur sont des serial killers. Quand vous voyez quelqu'un de bien, en fait, c'est un serial killer. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qu'il a tuées pour devenir cette personne. Parce que pour devenir intelligent, il a tué l'idiot qui est en lui. Pour devenir courageux, il a tué le peureux. Pour devenir généreux, il a tué le radin. Alors, combien il a tué de personnes? C'est ce que dit l'agmara dans Tamil. Arotse lichyot yamut. Si tu veux vivre, il doit mourir. L'agmara dit yamut et itzro. Il doit tuer son yetzera. C'est-à-dire qu'il doit tuer celui à l'intérieur. Maintenant, malheureusement, tant que quelqu'un n'a pas compris que son Yetzer Hara, c'est pas lui, il croit que quand il tue son Yetzer Hara, c'est lui qui meurt.
On n'a pas ça.
Tant que quelqu'un n'a pas compris que Yetzer Hara, c'est pas lui, ouais, il croit que c'est lui, Yetzer Hara. Il s'est identifié au Yetzer Hara. D'accord? Donc quand tu lui dis tue ton Yetzer Hara, alors il dit alors tu veux que je meure. D'ailleurs, les orgueilleux, quand tu les casses, ils te disent tu m'as tué. Parce que tuer l'orgueil, pour celui qui n'a que l'orgueil, il est mort. C'est ça ce qu'ils ont dit. Mimotenu bamidba. Que mourir dans le désert. Parce que le désert, on a dit, c'est l'endroit où tu as rendez-vous avec toi-même. Celui qui a rendez-vous avec lui-même, attention, attention, que quand il va venir au rendez-vous, il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Je ne sais pas si vous me suivez. Il ne faudrait pas qu'il vienne au rendez-vous, qu'il a rendez-vous avec lui, il n'y a personne. Il a peur qu'il n'y ait personne.
Je vous donne une autre situation, vous allez comprendre. Des fois, je m'occupe un peu des couples. C'est très rare. Bon, Hachem, il n'y a plus de problème chez le bait. Ça y est, c'est fini, c'était une ancienne époque. Mais à un moment, il y en avait encore. Des fois, ils viennent chez moi les deux. Alors maintenant, toujours, il y en a un qui veut venir, un autre qui ne veut pas venir. C'est normal. Des fois, c'est la femme qui pense que le mari est fou. Des fois, c'est le mari qui pense que la femme est folle. Chacun, il pense que l'autre est enfermé. D'accord, c'est logique. Maintenant, l'autre, par exemple, la femme, elle me dit, voilà, mon mari, il est comme ça, il est coléreux, il est méchant, il est tordu, il est orgueilleux. Bon, ou alors c'est le mari qui me dit, elle dépense trop, elle est folle, elle est encore dans le jupon de sa mère, elle n'a pas coupé le cordon ombilical. Bon, Hachem, tout le monde est psychiatre de l'autre. Ça, pour ça, je n'ai pas peur. Mais Nara, on est très, très fort pour juger l'autre. Alors moi, toujours que la personne maintenant qui veut arranger les choses, je dis, donc vous voulez vous battre? Elle me dit, oui, je veux me battre, je veux construire, je veux sauver, d'accord. Je dis, c'est quoi le problème? Elle me dit, voilà, elle me fait le cahier des charges de tous les défauts de l'autre. Un livre. Pas de problème. Je dis, écoutez, madame, dans le cas où c'est une madame, je dis, écoutez, madame, je m'occupe de votre mari. D'accord? Mais écoutez-moi bien. Moi, je vais faire le travail. Il y a un problème sur la colère, on va faire le travail. Il y a un problème sur l'orgueil, on va faire. Il y a un problème sur le respect de soi, il y a un problème sur la manière de parler, on va faire le travail. Et je lui dis, mais madame, dans un mois, on va se revoir. Est-ce que vous serez là? Elle me dit, mais enfin, je n'attends que ça. Mais ça fait 20 ans que je prie et que je le maudis pour qu'il change. Mais j'attends que ça. Qu'il change. Je dis, écoutez, je répète, madame, je répète la question. Aujourd'hui, vous êtes venue avec des exigences. Maintenant, votre mari, je l'ai pris, je l'ai coupé en morceaux. Je l'ai fait voir du. De la viande hachée. Il va changer. Attention, il va changer. Je vous le dis, c'est mon travail. Mais quand il va changer, vous serez là, vous, non? Elle me répète, mais bien sûr, mais je suis venu pour ça. Alors j'ai pris l'exemple avec la femme, des fois, c'est le mari. Ouais, il dit, ma femme, elle a un problème, elle est psychopathe, elle a un malaise, elle est dépressive, elle est très. Je dis, il n'y a pas de problème, t'occupe pas d'elle, je m'occupe. Je vais te la remettre, debout. Ouais, je vais travailler, je vais la construire, respect de soi. Tu vas voir, elle va être chef d'entreprise dans un mois. Aujourd'hui, tu vas voir, Fihala. Elle va être patronne de Rumpoulinque. Donne-moi un mois. Je suis un. Je dis, mais quand elle reviendra, ta femme, et qu'elle sera bien, c'est la femme que tu attends depuis des années, est-ce que toi, tu seras là ou non? Et il me donne la même réponse. Ouais, mais bien sûr, mais shalom, mais tu es fou, mais je prie le ciel, mais j'ai allumé des bougies, j'ai mangé des mezuzot, j'ai tout fait pour ça. Je dis, bon. Moi, j'ai confiance. J'ai été éduqué par mes parents à avoir confiance. Au bout d'un mois, je reviens. Écoutez bien, maintenant, il a changé. Lui, monsieur, il est devenu. Lui, Allah, il est venu. Finesse, gentillesse, douceur, tendresse. Love story de chez moi. Ou le contraire, la femme qui était l'hystérique, la nerveuse, la violente, les gros mots, elle est devenue. Hnina de chez Hnina. Bon. Alors là, j'ai dit, bon, alors ça va, vous êtes content du résultat, la prestation est à la hauteur de vos attentes. Elle dit, oui, c'est vrai, mais je ne sais pas si j'ai encore les centimes. Je ne sais plus si je veux continuer. Je ne sais pas si au fond je l'aime vraiment. Alors elle me dit, c'est marrant parce qu'à la fin du dernier rendez-vous, vous nous aviez dit, est-ce que vous serez au rendez-vous? Est-ce que vous serez là dans un mois? Elle m'a dit, vous saviez ou vous avez maudit? Je dis, vous savez, moi j'ai une petite expérience de quelques milliers de couples. Ouais. Je sais que des fois, il y en a qui veulent le shalom. Il y en a qui veulent un cousin du shalom. Ils sont deux cousins. Il y a un il s'appelle Has, un il s'appelle Shalom. C'est Has et Shalom, c'est deux cousins. D'accord. Il y en a qui veulent le shalom. Ouais. Et il y en a le shalom, pour eux, c'est la pagaille. En vérité, ils se plaignent tout le temps que ça ne va pas. Mais au fond, ils ont peur que ça s'arrange. Ils ont peur. Parce que maintenant, c'est vrai qu'elle a un mari qui est coléreux. Mais elle, c'est vachement confortable. Parce qu'elle peut rester une pauvre type tant que son mari est un violent. Mais le jour où son mari va être normal, on va lui dire, bon, bah maintenant, où tu en es, toi? Ah ben, moi. Ouais. C'est pareil. C'est vachement pratique d'avoir une femme comme ça, une débile mentale. Parce que toi, quand tu te mets à côté, on dirait que t'es normal. Mais maintenant qu'elle est devenue normale, toi, tu fais vraiment débile mentale, maintenant. C'est-à-dire que les gens, en vérité, ils demandent la paix, ils exigent la paix. Mais la paix, c'est un challenge. La paix, c'est un effort. La paix, c'est un travail. C'est très facile de faire la tête. Mais c'est très difficile d'être gentil, proche, attentionné, doux, réfléchi, se remettre en cause, construire, évoluer avec l'autre, c'est dur. Mais faire la gueule, c'est facile, tu fermes les portes. C'est fermé, c'est fini, il n'y a personne. Tu tiens les rideaux, au revoir. C'est facile de faire la tête. Pourquoi? Alors, je vous ai expliqué déjà plusieurs fois. Parce que pour faire la paix avec l'autre, il faut faire la guerre avec soi. Pour faire la paix avec l'autre, il faut faire la guerre avec soi. Mais il y a beaucoup de gens, pour avoir la paix avec soi, ils font la guerre avec l'autre. Pour ça que le mot shalom, il vient du mot shalem. Bishvi la shalom, sarich le shalem. Non, je rigole. Pour le shalom, il faut être shalem. Il faut être shalem. Donc toi, tu as des paroles, tu as des exigences. Mais au fond, il faut savoir toujours. Ce jour, je vous ai expliqué, les gens, la sagesse, c'est pas de savoir ce que les gens y disent. La sagesse, c'est savoir qu'est-ce que les gens ils veulent dire. La sagesse, c'est pas de voir qu'est-ce que les gens ils font, savoir qu'est-ce qu'au fond ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent, comprenez ou non? Les gens, ils parlent de santé, ils se rendent malades. Ils parlent de parnassa, ils travaillent pas. Ils parlent de vérité, ils arrêtent pas de mentir. Alors, il faut commencer par la vraie question. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, eux, ils ont dit la vérité. Ils ont dit, c'est mieux pour nous d'être esclaves de l'Égypte que de mourir dans le désert. Parce que c'est quoi le désert? Le désert, c'est rendez-vous avec soi-même. C'est quoi l'esclavage? C'est que t'es une machine. T'es une machine. C'est reposant d'être une machine. C'est facile d'être une machine. La machine, elle ne réfléchit pas. Elle produit. Alors toi, tu produis au bureau, elle, elle, elle produit à la maison. Une femme, elle est venue chez moi.
Ah, mais j'ai triste, je pleure. J'arrête pas de pleurer, je me lève le matin, je pleure. La nuit, je pleure, le jour, je pleure. Tout le monde voit que je pleure, je suis très pas bien, je suis pas, je souffre.
Je dis, enfin, madame, j'ai juste une question. Pourquoi vous vous levez le matin? Elle m'a dit, bah,
je prends les enfants à l'école, je fais les lessives, je prends le Shabbat, je fais les lessives, je prends le Shabbat, je prends les enfants à l'école.
Écoutez, madame, vous ne m'avez pas décrit une femme, là vous m'avez décrit une imprimante. Une imprimante, une imprimante.
Une imprimante, vous êtes une imprimante.
Alors, une imprimante, elle imprime tant qu'il y a de l'encre. Ça marche du tonnerre, d'accord. Elle imprime, un jour il n'y a plus d'encre. Au lieu d'imprimer, elle déprime. C'est normal. Je dis, moi, je vous parle en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'épouse. Vous n'êtes pas une imprimante, vous êtes une personne. Alors, est-ce que vous avez un but le matin? Est-ce que vous avez une raison de vivre? Est-ce que vous avez fait des choses qui vous font plaisir?
Oh, vous savez, moi, je suis rien. Qu'est-ce que je suis? Moi, je suis à jeter. Ah, HP, vous voulez dire? Oui, oui, HP, HP, c'est pareil. D'accord. Donc, ta personne, elle pense qu'elle vaut rien. Comment tu vaut rien? Mais tu ne sais qu'elle, t'es une valeur extraordinaire. Je me rends compte sur toi. Toi, tu dis que tu vaux rien. Alors, encore une fois, c'est toujours double. D'un côté, la personne est victime, parce qu'elle a un mari très autoritaire. D'un autre côté, c'est très confortable de rentrer dans une fonction. Ça s'appelle Mitzrayim. Tu t'es fait ta petite prison personnelle. Avant de sortir de la prison de dehors, il faut d'abord sortir de la prison de dedans. Comprenez ou non? Est-ce que quelqu'un, il a souffert quand il était petit? Bon, d'accord, il a souffert. Il avait un papa qui était très très dur, et une maman qui ne l'a jamais dit qu'elle l'aimait, et une maman qui ne l'a jamais dit qu'elle l'aimait, et un père qui était très dur, et un père qui était très dur, et une maman qui n'a jamais dit qu'elle l'aimait. D'accord, maintenant tu as 48 ans. On peut passer à autre chose. Oui, tu ne te rends pas compte, il y avait un papa qui m'a jamais dit qu'il m'aimait, et une maman qui était très dur. Ouais, t'es un peu complice là. 19 ans de thérapie, je pense qu'il a, il s'est payé un château, ton psy. Ça y est, M. Kapala, c'est plus la peine, ça suffit. Oui, c'est trop facile. Tu vois, toi, tu préfères être esclave de tes limites que d'aller dans le désert. C'est quoi le désert? C'est l'endroit de l'essentiel. Parce que tu as rendez-vous avec toi-même. Tu as rendez-vous avec la vérité. Encore une fois, ce matin, encore une fois, au téléphone, où j'étais ce matin? À l'aéroport. Ah non, j'étais ici, c'est après une femme qui m'appelle. Je la connais très bien. Elle me dit, ah, mais je sais ce que j'en peux plus. Elle m'avait appelé pour un autre truc. Après, elle me dit, il faut que je vous parle. Je vais me parler. Écoutez, ça fait 23 ans que je suis marié. Il veut rien comprendre, mon mari. Il me sort les mêmes bêtises qu'il y a 23 ans. Les mêmes lourdeurs, les mêmes trucs. Je dis, j'en peux plus. Je dis, pourquoi vous en pouvez plus? Il me dit, il comprend rien, il comprend rien. Je dis, mais il veut rien comprendre, il peut rien comprendre. Il n'est pas idiot, votre mari, je le connais. Elle me dit, oui, mais vous rendez compte, c'est fatigant, j'en peux plus. Je suis épuisé, il raconte les mêmes trucs. À quoi ça sert à rien? Ça y est, maintenant les enfants, ils sont grands. Ta fille, elle va se marier dans un mois. Elle veut un mariage séparé. Elle a fait un an de séminaire. Ça y est, arrête de nous saouler avec. Ah, quoi ça sert? Ça, c'est les rabbins qui ont inventé. Eh ben, ça y est. Les conférences et les conférences. Et les séminaires et les séminaires. Alouette, alouette. Elle a tout fait. C'est-à-dire, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut s'entêter? Comprenez ou non? Et ces gens-là, jamais ils vont parler avec le rabbin. Jamais. Jamais. Ils savent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il a raison, le rabbin. Ils vont parler ou avec des ignorants, ou avec des gens qui peuvent influencer. Mais devant les ignorants, ils font les intellectuels. Oui, vous savez, la Torah, moi je vous expliquais, c'est un problème, c'est l'opium du peuple, c'est pour les gens qui sont mal dans leur peau. Viens parler au rabbin. Hop, la savonnette. Moi je dis pas au rabbin. Tu as des questions, tu as des problèmes, tu as des choses qui sont pas claires. Je le vois pendant la conférence, quand je parle. Donc moi-même, je lui dis, vous avez des questions? Vous, par exemple, vous avez cette question? Comment vous savez que j'ai cette question? Ton Yetziratov, je ne te le connais pas, mais ton Yetzira, je le connais. On a le même. C'est dans la Gemara, c'est la même tête. Parce qu'ils ont tous la même tête. C'est facile à trouver. Ouais. C'est des gens qui restent toujours entre la daf même tête et daf pétête. La même tête, ils l'ont, et peut-être parce qu'ils ont toujours des doutes. Peut-être que oui, peut-être que non. Ils n'arrivent pas à dépasser le daf pétête. Ça veut dire cette logique? Que quelqu'un en vérité, il préfère être esclave de ses limites que de mourir dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il croit que mourir, c'est mourir. En vérité, mourir, c'est vivre. Mais casse tes mauvaises midotes, va t'excuser, va, la vie, elle va commencer. Eh ben, parle-lui. C'est ce que je lui ai dit ce matin à cette femme. Je lui ai dit, mais madame, mais parlez à votre mari. Mais à quoi ça sert? Vous ne vous rendez pas compte, vous ne connaissez pas. Mais parlez-lui, madame. En vérité, t'as peur de ce qu'il va te répondre. T'as peur que même après la sincérité, il n'y a rien à faire. Alors tu préfères faire ta mousse
Parce que tu sais pas ce qui va se passer derrière. Tu as peur de te trouver dans le désert de la solitude. Ah bon? Parce que tu crois qu'il y a des gens qui sont pas dans le désert de la solitude avec quelqu'un. Tu crois que la solitude, c'est que seul. On peut être seul à 36, on peut être seul à 40. Les gens qui disent, oh, vous savez, on avait quand même une vie de famille. Tu rentres chez eux, le père, il est devant la télé, la mère, elle est devant son feuilleton sur une autre chaîne, le fils, il est sur MSN, et la fille, elle est sur la PlayStation. Tu dis, ça, c'est une famille, ça? Même le Shabbat, ils mangent pas ensemble. Même la semaine, ils se voient pas. Alors tu dis, vous savez, le divorce a éclaté la famille. Je crois que la famille était déjà éclatée avant. Je pense qu'il n'y avait pas de famille avant, déjà. Je pense. Parce qu'il y a toujours un terrain. La semaine dernière, j'étais à Bruxelles. Une femme, elle vient me voir. Elle me dit, ah, je suis au fond. Voilà, j'ai attrapé le cancer au sein. Et j'ai une ablation d'un sein. Ça fait 4 mois, je n'arrive pas à me remonter. Je dis, madame, moi, je veux bien vous aider. Mais il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Elle me dit quoi? Je dis, votre problème, il n'a pas commencé avec l'ablation du sein. Il y avait un terrain avant. Alors, il faut qu'on travaille le terrain d'avant. Ça ne sert à rien de travailler après. Parce que le dentiste, s'il creuse, il creuse, il laisse un petit peu de noir, eh bien, la carie, elle revient. Elle m'a dit, non, là, je préfère pas en parler. Avant, je préfère pas en parler. Alors, si vous voulez pas en parler avant, on va attaquer l'autre sein, maintenant. Vous voyez cette logique ou non? Est-ce que la personne, elle est prête à aller dans le désert? C'est ça, le désert. Maintenant, pour aller dans le désert, il faut être prêt à mourir. Mimotez-nous, Bamidba. Maintenant, cette mort-là, elle est positive. Parce que ça veut dire que tu as tué ton orgueil. Alors maintenant, tu es vivant. Tu as tué son Yetzirah, alors tu es vivant. Tu as tué ta bêtise, alors tu es vivant. Comprenez ou non? Un jour, si Dieu veut, l'adolescent, il va tuer sa lourdeur. Là, il va devenir un adulte. On attend qu'il meure. On attend qu'il meure le mauvais côté. Pour que l'adulte y naisse. Je veux dire, même des fois, il y a des enfants qui ont des parents qui ont une très très forte personnalité. Malheureusement, c'est quand le père y meurt que l'enfant y naît. Avant ça, on ne regarde même pas qui il est, lui. Il est l'ombre du l'ombre de l'ombre de l'ombre. Le jour où le père il s'en va, alors tout le monde se tourne vers le fils et dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors lui, il n'a pas l'habitude, c'est la première fois. C'est comme ça. Moi, pour vous dire, personnellement, je me rappelle la première fois que j'ai dit à mon rave comment je dois faire pour un cours ou quoi, et il m'a dit, fais comme tu penses. J'allais tomber dans les pommes. Parce qu'il a une tellement forte personnalité, il a une tête tellement grande, il a tellement de Torah, que moi je me pense, je suis comme un goy à côté de lui. Tellement il est puissant, ouais. À 20 ans, il connaissait la moitié du chat par cœur. Il a des milliers de références dans la tête, c'est un cerveau d'une vitesse incroyable, ouais. Et à part ça, il a une personnalité, tu le vois, tu trembles. Il a une... Ouais. Et un jour, je commence à donner les cours. Au bout d'un ou deux ans, j'ai été le voir. Bon, voilà, j'ai un cours à donner comme ça et comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, fais comme tu penses. J'ai été choqué. Ça veut dire, il me fait confiance. T'as compris ou non? Mais c'est la logique. Parce que lui, il meurt un peu dans sa place de rave. Pourquoi toi, tu commences à prendre ta place de rave? Comprenez cette logique-là? C'est ça la différence entre le père et le grand-père. Quand est-ce qu'un père, il devient grand-père? Quand est-ce qu'un père il devient grand-père? Vous allez dire le jour où son fils il a un enfant. Non, le jour où il accepte que son fils il est devenu un homme. Parce que le grand-père il a du recul, ouais. Le père il est au direct. Maintenant c'est difficile de faire confiance à son fils pour lui dire allez il a grandi. Ça c'est un des défauts des enfants. Un des défauts des enfants c'est qu'ils grandissent. Donc les parents ils veulent pas qu'ils grandissent. Toujours ils disent oh mais t'es un gamin mais il comprend rien. Mais je vais pas. Comment je lui passe la voiture? Comment je lui prête 20 000 euros? Mais c'est un gamin. Tu n'arrives pas à comprendre qu'à force de changer la couche il a fini par grandir. Mais c'est difficile. Comment on se brève? Il sort mal, il comprend rien. Tu sais à son âge t'étais à peu près aussi idiot. Non c'est vrai. Bon peut-être qu'aujourd'hui il y a le décalage de la PlayStation qui recule encore de 10 ans. Ouais. Mais des fois tu es comme ça. Il est comme ça. C'est tu lui dis, attends-moi ici. Tu montes en haut, tu le regardes par la fenêtre. Il est devant la voiture comme ça. Avec son jean qui tient tout seul. Tu dis, celui-là, il va se marier, celui-là. Tu le regardes comme ça. Tu dis, ce mec-là, il va être père l'année prochaine. Mais c'est dangereux. Son fils, à la naissance, il sera plus vieux que lui. Et pourtant, il se marie tous les gens. Et il y a des enfants qui naissent. Alors, ça veut dire quoi? C'est que toi, tu as un problème que tu ne vois pas l'enfant grandir. D'accord? Lui, il a un problème, c'est qu'il voit que tu ne le laisses pas grandir. Maintenant, toi, il faut que tu meures en tant que père pour que lui devienne un homme. Et lui, il faut qu'il tue le gamin qui est en lui pour devenir un adulte. Ça fait deux morts. Mimotenu bamidbar. Oui, motenu, c'est la mort dans le désert.
C'est quoi le désert? On a dit c'est quoi? C'est là où tu quittes le monde des limites. Tu sors d'Égypte. Mais tu es prêt à entrer dans le désert? Tu sais, les enfants, ouais, j'en ai marre. Tu me limites.
D'accord, je ne vais pas t'imiter. Tu veux assumer? Non, papa, je veux bien. Je veux bien aller vivre avec ma copine, mais tu payes le loyer. Tu me payes la voiture. Tu me donnes 2000 euros par mois. Mais je vais être libre.
Mais si tu es libre, mon fils. Bracha vetzlacha. Valdebrask. Tu veux pas que je te paye le shit aussi?
D'accord. C'est quoi la logique? C'est que la personne, elle est prête à quitter l'Égypte. Mais elle ne veut pas rentrer en Israël. Non. Elle veut les avantages de l'Égypte, mais elle ne veut pas les inconvénients de l'adulte. Ouais, c'est logique ou non? Mais c'est impossible. Je vous ai déjà dit, celui qui n'est pas prêt à mourir, il ne peut pas vivre. Donc c'était ça le conflit. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Barouh? Il les a mis devant la mer. Encore une fois, c'est une situation qui est très bizarre. Ça, c'est une preuve que la Torah, elle est divine. Parce que si c'était un homme qui avait écrit la Torah, qu'est-ce qu'il aurait dit? Les Bnei Israël sont descendus en Égypte, ils ont subi l'esclavage pendant 210 ans, après il y a eu des miracles, on a massacré les Égyptiens, ils sont sortis, ils sont rentrés en Israël, ils ont reçu la Torah, super. Ça c'est si un homme il avait écrit la Torah. Mais à quoi elle sert l'histoire de la mer Rouge? Elle sert à rien, dans un scénario. Elle sert à rien. Maintenant les Bnei Israël, ça y est, les Égyptiens ils sont finis. Eh bien c'est bon, ils sortent, ils marchent 3 jours dans le désert, ils rentrent en Israël. À quoi il sert l'épisode de la mer Rouge? Ils sont devant la mer maintenant. C'est une situation qui est complètement débile. Parce que l'histoire elle est terminée, vous comprenez ou non? Et les Égyptiens ils sont derrière. Mais attendez, on a fini avec eux là. Genre, maintenant, c'est comme si tu, à la fin du film, tu sais comment ça se passe? À la fin du film, le héros il se lève, tous les ennemis sont par terre, tu dis ouais, t'es content. Et juste après qu'il y a marqué fin, le bandit il se lève, il déchire la fin, il dit c'est pas fini, on recommence. Tu dis attendez les gars, j'ai tué tout le monde, je suis sorti d'Égypte, on va recommencer l'histoire. Non, le bon Dieu il dit, hé, c'est pas fini. Et non seulement que c'est pas fini, mais ça se continue dans une rama d'étouffement total. Que quoi? On est devant la mer, il y a les Égyptiens derrière, il y a les falaises d'un côté et les bêtes sauvages de l'autre. Ça veut dire que t'es foutu. Alors on dit, à quoi elle sert cette histoire? Alors qu'est-ce qu'il fait évidemment? Les Bnei Israël, vous connaissez, toujours en train de pleurer. Il parle, il se tourne vers le rabbin, vers Moshe Rabbeinu. Il dit, Moshe Rabbeinu, alors, regarde ce qu'il nous a amené ici pour mourir ici, à quoi ça sert? Moshe le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers le bon Dieu. Et le bon Dieu, qu'est-ce qu'il leur dit? Vayomer Hashem el Moshe, matitsarakelai, daber el béni Israël, veïsaou. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur d'avancer. Il y a un malaise là. Attendez, il y a un malaise là. Là, c'est la mer. C'est la mer. La mer, c'est de l'eau. Après, c'est profond. Si tu avances vraiment dans la mer, à un moment, tu vas être vraiment dans la mer. Non, il faut le savoir. Je veux dire que la mer, c'est vraiment la mer. C'est pas la peine d'être marin pour comprendre que c'est la mer. Donc, c'est quoi l'histoire? Rabotai, vous savez, dans la vie, on va être tous devant une mer, à un moment ou à un autre. Retourner en arrière, on peut pas. Tu veux pas retourner dans le monde de l'enfance. Il y a des gens comme ça, après 3 ans de mariage, il va voir sa mère, il dit, maman, si je reviens. Non, on dit comme ça, je suis parti ma femme et j'en ai marre de m'assumer les enfants. Tu m'as gardé ma chambre, tu connais mes plats, tu sais comment je m'habille, tu sais repasser, moi, tu sais mon assouplissant que j'aime. Et si je reviens? La mère a dit, mon fils, le cordon, il est coupé, sectionné, cicatrisé. Cautérisé. C'est fini. Non, il y a des gens, non. Il y a des parents pires. Les parents, c'est des parents qui disent, tu sais, mon fils, tu reviens quand tu veux. Ma fille, si tu n'es pas heureuse, attends, je viens de me marier. Si tu n'es pas heureuse, sache que ta chambre, on te la garde. Tu t'étonnes. Sur les 4 ans de mariage, elle passe 2 ans chez sa mère. Qu'est-ce qu'il leur dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, mais dis-leur d'avancer. Alors en vérité, l'histoire, c'est vrai qu'elle est complètement débile,
Mais d'un autre côté, ben c'est impossible de tromper.
Encore une fois, tu peux pas retourner en arrière.
Ouais. Tu peux pas retourner en esclavage. Tu peux pas retourner en enfance. Donc il va falloir avancer.
Tu dis, mais je peux pas avancer, c'est la mer. Il va falloir réfléchir. Tu vois, quand tu regardes le monde des adultes, c'est la mer. Quand tu regardes le mariage, c'est la mer. Quand tu regardes les enfants, je dis, quand je vais faire avec des enfants, c'est la mer. Quand tu crées ton entreprise, qu'est-ce que tu vois devant toi? Une mer. Tu sais pas comment ça commence, tu sais pas comment ça se termine, tu sais pas si ça va venir, ça va venir. C'est la mer. En vérité, la vie, c'est la mer.
Mais il n'y a rien d'autre à faire. Il faut avancer. Il n'y a rien d'autre à faire.
Alors tu vas avancer ou tu vas pas avancer?
Vous me suivez ou non?
C'est une épreuve très grande. Eh bien, c'est pas chou. Vous lisez la paracha, c'est pas la peine.
Regardez, il est usé le cours tellement je l'ai fait.
Il faut le bâton en tout cas.
C'est rien le bâton.
C'est qu'il y a deux psukim qui a priori ont l'air.
On n'a pas commencé le cours. Donc, il y a deux psukim qui ont l'air de dire la même chose. C'est marqué au Pérec là-bas, au Pérec Yudalet, pas sous Kafbet, c'est marqué. Vayavou bene Israël betohayam bayamasha, va maïmayala, emchoma miminam mismola. Ils ont été, les béni Israël, dans la mer, bayamasha sur la terre sèche, va maïmayala emchoma, et les eaux étaient pour eux une muraille de protection, miminam mismola. Vous connaissez l'histoire, vous avez eu sûrement le texte ou le film,
oui.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui a plongé. Narshon ben Aminadab, il a plongé. Après, sa tribu, elle a plongé. Après, les béni Israël ont suivi. Le premier qui a plongé, il est arrivé, il était vraiment dans l'eau jusque-là. La première tribu, ils sont plongés, ils étaient prêts à mourir. Alors, on a dit que les gens qui vont vivre, c'est les gens qui sont prêts à mourir.
Les gens?
Les gens qui vont vivre, c'est les gens qui sont prêts à mourir.
Comme dans le business. Faut se lancer. Tu dis, non, je préfère que tout soit assuré, qu'il n'y ait aucun risque. Alors, tu restes à la caisse d'épargne, 1,75%. Si tu veux faire du 1800% par jour, il faut prendre des risques. Il faut se jeter à l'eau. Même les goyim, ils disent, il faut se jeter à l'eau. D'où vient cette expression de se jeter à l'eau? Il vient d'ici.
Ouais.
Alors, ils sont jetés à l'eau. Attention, ils sont jetés à l'eau pour mourir. Ouais. Et quand ils sont descendus pour mourir, la mer s'est ouverte. Exactement pareil.
Abraham, il a plongé dans la fournaise ardente. Vous êtes au courant, dans le feu. D'accord.
Quand il est rentré, il pensait qu'il allait vivre ou qu'il allait mourir? Il pensait qu'il allait mourir. Comme il était prêt à mourir, il a survécu. Il y a eu un miracle. Mais son neveu, le fils de son frère, quand il a vu que ça marchait, il a plongé aussi. Et lui, il a brûlé.
Non, mais tu dis, c'est complètement possible. C'est débile. Ça veut dire que celui qui est prêt à mourir, il va survivre. Mais celui qui n'est pas prêt à mourir, il va mourir.
Il s'est marqué ici. Les béné Israël, ils sont rentrés dans la mer.
Betor Hayam, dans la mer, Bayabasha, sur la terre sèche. Parce qu'il y a un miracle, la mer s'est ouverte.
Vamaïm Ayalaem Choma, l'eau était pour une muraille. C'est que quand les tribus sont rentrées, il y a eu 12 tunnels dans l'eau qui sont ouverts. Les eaux se sont cumulées sur 60 amot. Vous savez ce que c'est 60 amot? 30 mètres de haut. 30 mètres d'eau. Ça veut dire c'est comme un bâtiment de 10 étages. En plus, transparent, parce qu'il fallait que chaque tribu, elle voit l'autre tribu. Parce que chacun, il dit, moi je vais avancer, l'autre il va pas avancer. Vous savez comment ils sont? Ouais. Voilà, essayez d'imaginer la situation. Ils sont là devant la mer, ils ont compris.
Ils peuvent pas aller en arrière,
ils peuvent pas aller en avant. Alors qu'est-ce qu'ils font? Alors chacun il dit Bechavot, Bechavot, nous, les Kohanim, les femmes et les enfants d'abord. Chacun il fait le kavod à l'autre.
Il dit la logique c'est quoi? Ils sont rentrés.
7 psukim après, c'est pas beaucoup 7.
Il n'y a pas un dans Shemot et un dans Vaïtranan. Regardez, 7 psukim après, c'est marqué. Où Bnei Israël, Alchou Bayabasha, les Bnei Israël sont allés. Bayabasha sur la terre sèche, Betohayam dans la mer, Vamaim ayala emchoma, et les eaux étaient pour une muraille, Miminam ou Mismolam, à leur droite, à leur gauche. C'est pas possible. C'est exactement la même chose à 7 psukim d'intervalle. Le Gaon de Vilna, il fait remarquer. Il dit non. Dans le premier pasouk, c'est marqué Betohayam, Bayabasha, dans la mer, sur la terre sèche. Dans le deuxième pasouk, c'est marqué Bayabasha, Betohayam, sur la terre sèche, dans la mer. C'est inversé, d'accord? Dans le premier pasouk, c'est marqué « Vamaim ayalaem choma ». Les eaux étaient pour eux choma. Et choma, c'est écrit là-bas avec un vav. « Chet, vav, memhe ». Une muraille. Dans le deuxième, c'est marqué « choma ». Mais il n'y a pas le vav, il y a un point. Alors tu peux lire « Chet, memhe ».« Chet, memhe », c'est « chema ».« Chema », c'est la colère.
C'est la colère.
Colère. Ouais. Il dit le gars, devine là.
« Chema » ou « Chamas ».
Khema. Non, Hamas,
c'est autre chose.
Non. On a fait l'abdicat Hamas. À Pessah, si Dieu veut, on va faire Biou Hamas. Non, Hamas. Biou Hamas. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? On a juste repéré. Hein? Non, le Hamas, c'est une forme de Hametz évoluée. Merci. Il y a un temps de réaction quand même. Hein? Il faut arrêter la télé. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Détendez-vous. Donc, qu'est-ce qui est marqué? Ici, c'est marqué. Pourquoi une fois c'est marqué Bayabasha Betochayam, une fois marqué Bayabasha Betochayam? Il dit le Gaon de Vilna, il y a eu deux genres de réactions devant la mer. Il y a des Bnei Israël qui se sont jetés dans l'eau. Ouais, ils se sont sacrifiés. Ils étaient prêts à mourir parce qu'ils ont bien compris qu'il n'y avait rien d'autre à faire. On dit en français, ils ont assumé leur responsabilité. Ils ont bien compris qu'on ne pouvait pas retourner en arrière, qu'il fallait aller de l'avant. Mais il y avait de l'eau, et bien il y aura toujours de l'eau dans la vie. Alors ils sont jetés dans la mer. Et quand ils sont jetés dans la mer, ils sont rentrés Betoch Hayam. Il y avait l'eau. Ils étaient comme ça, ils allaient mourir. Alors à ce moment-là, il y a eu un miracle. Ils se sont retrouvés Bayabasha sur la terre sèche. Ça va? Mais il y a un deuxième groupe. Ils ont attendu que les premiers y plongent. Et quand la mer elle s'est ouverte et qu'elle était sèche, ils sont rentrés dans la mer Bayabasha sur la terre sèche. Mais géographiquement, ils étaient où? Betoch Hayam.
C'est-à-dire?
Ils étaient dans la mer. Ils ont avancé dans la mer. Ici, à cet endroit-là, il y avait de l'eau. Maintenant, il n'y a plus d'eau. Ça va. Mais ce n'est pas grâce à eux qu'elle s'est ouverte. C'est grâce à l'autre. Ça va. Donc, il y en a qui sont sacrifiés. Ils ont provoqué un miracle. Et il y en a qui ont profité que les autres se sont sacrifiés pour profiter du miracle. Ça va. C'est clair pour vous? Super. Bon, si vous allez dire, eh ben, c'est comme ça. C'est pas grave. Le peuple d'Israël, il est comme ça. Il y a des tzadikis qui sacrifient. Ouais. Et il y en a d'autres qui profitent. Parce qu'on se moque toujours, ouais, les religieux, ils sont là avec leur caftan et leur chapeau et leur barbe, c'est dégueulasse, c'est parasite, ils sont là profiteurs, ils viennent pour voler notre argent. D'accord. Mais quand tu as un problème de couple, ou là une leucémie, ou là un cancer, tu vas pas demander une bénédiction à Michael Jackson. Tu vas pas demander au Rav Arthur de te faire une bénédiction. Tu vas pas voir le doyen de la faculté de Milan, pourtant il est vieux, il a une grande barbe comme ça. Tu vas pas voir l'évêque de Milan, l'archevêque, monsieur l'archevêque, un homme de sainteté comme vous, ouais. Pourriez-vous bénir mon fils pour qu'il sorte du coma? Non, tu vas voir le parasite de Rabin. Tu vas faire la queue devant les Nekoubal. Si tu tombes sur un bon, peut-être tu vas tomber sur un embrouilleur qui va prendre 60 000 euros parce qu'il est, parce que vous savez, il y a deux genres de prix. Il y a le prix TTC. Et il y a le prix TDC.
TDC, tu meurs.
Non. TTC, c'est toute taxe comprise. Et TDC, c'est la tête du client. Ah, c'est comme ça. Et chez les commerçants, c'est tombé du camion. C'est l'origine de la marchandise, ce n'est pas clair, ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a le rabbin qu'on mérite. Les gens de Khaloued ont des rabbins de Khaloued. Et Baruch HaShem, il y en a des de Khaloued. Hein. Ils viennent en char d'ailleurs. Ils viennent depuis longtemps, ce qu'on appelle des charlatans. Oui. Il dit, mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est que, encore une fois, il y a toujours deux groupes. Il y a des gens qui font le miracle et il y a des gens qui profitent du miracle. Mais en réalité, ce n'est pas seulement dans le peuple d'Israël. Dans le monde entier, c'est pareil. Même dans un couple. C'est dans un couple, il y a toujours un qui fait avancer le couple et un qui fait reculer le couple. Quand un il fait la tête, l'autre il dit allez chérie, c'est pas grave. Après, quand celui-là il dit bon, allez, viens, on va s'arranger, l'autre il dit non, c'est trop facile, il faut que tu payes. Je vous donne l'histoire des deux fous, vous rappelez les deux fous? Il y a deux fous sur un tandem, en plein été, ils montent une côte comme ça. Ils crèvent en plein soleil, ils arrivent en haut de la côte. Alors ils descendent du vélo. Alors le premier il dit heureusement que j'ai pédalé, sinon on serait jamais arrivé en haut. Le deuxième il dit heureusement que j'ai freiné, sinon on serait redescendu. Essaye de monter une côte quand il y a un qui freine. Et tout. Vous rigolez, mais il y a beaucoup de couples où c'est comme ça. Il y en a un qui freine. Il y a beaucoup de sociétés où c'est comme ça. Il y en a un qui fait avancer la société, il y en a un qui fait baisser la société. Il y a beaucoup de communautés où c'est comme ça. Il y a un groupe qui veut faire avancer la communauté, qui veut aller vers la Torah, et il y en a un toujours. Allez, à quoi ça sert? On va pas te dire de l'Obavitch ou des talibans, après c'est le titre de Catan, c'est pas obligatoire, et la Kippa qui a dit, et de toute façon il faut s'inscrire dans la société en tant que citoyen italien. C'est des gens qui ont fait une croix sur leur judaïsme, d'accord? Il dit, mais la logique c'est quoi?
c'est que c'est toujours comme ça. Tous les groupes, ils sont divisés. Tous les groupes. Ça n'existe pas un groupe homogène. Même l'homme lui-même, il a un côté enfant chez lui, un côté adulte. Il a envie de mentir, et il a envie de dire la vérité. Il a envie d'apprendre la Kabbalah, et il a envie d'être enfermé avec 34 prostituées. Il est partagé. 72, non, c'est une autre religion. Je crois que vous n'êtes pas au courant. D'accord.
C'est bien, je pas.
Vous n'êtes pas au courant. Okay. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? L'idée, Rabotaï, c'est pas shoot. C'est que cette division-là, qui a fait l'ouverture de la mer,
ouais, et nous, toujours, on dit, Vesruto, Tagen, Alen, ça veut dire le srou du tzadik qui nous protège. Ça veut dire, on peut continuer à aller à la plage, on peut continuer à mentir, à voler, à tricher, à tromper notre femme. Parce que le srou du tzadik nous protège. Et ouais, jusqu'où il va te protéger?
Alors c'est marqué dans le passé. Pourquoi? Parce que vous avez bien compris. Ce groupe qui plonge dans la mer, ouais.
Tu dis, mais ils sont bêtes. Pourquoi ils se crèvent? Pourquoi ils se fatiguent? Pourquoi?
Alors, je vous donne l'exemple. Imaginez un radeau. Vous savez ce que c'est les radeaux, ouais?
Mais un radeau humain.
Il fait 20 km sur 20 km. Vous pouvez l'imaginer, celui-là?
Énorme.
Et sur ce radeau qui flotte, qui est tout plat, il n'y a rien. C'est une plaque de béton comme ça avec des flotteurs en dessous.
Il y a 14 millions de personnes dessus.
Énorme. Et puis d'un seul coup, on entend un bruit.
Tout le monde est comme ça sur le radeau. 14 millions de types, imagine-toi, en pleine mer du Pacifique.
Et on voit arriver un truc bizarre. C'est la même plaque qui fait 20 km sur 20 km en béton, 20 cm d'épaisseur. Je vous calcule à peu près comment ça pèse, d'accord? Qui est porté par 4000 hélicoptères de combat russes. Vous avez l'image dans votre tête? Et tout le monde s'arrête de ses activités, ils se demandent où ils vont ces types-là avec cette plaque. Et il y a des haut-parleurs qui viennent. Nous allons déposer la plaque sur vous. Attendez, chacun ils se regarde,
mais ça va pas.
Attends, il n'y a pas de mur. Nous allons déposer la plaque. Des haut-parleurs comme ça. Mais attends, chacun dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Levez les bras. Comment lever les bras? Mais ça va pas la tête, non? Mais ils viennent. Les 2800 hélicoptères, ils viennent. Ils se mettent au-dessus, imagine, il n'y a plus de soleil. Une plaque comme ça, énorme, 20 km sur 20 km de béton. Ouais, ça pèse à peu près 268 775 232 kilos, à peu près en tonnes, disons. Il va vous la déposer. Maintenant, si tout le monde lève la main, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il vient, il dépose. Et tout le monde lève la main. Et après, il y a des malins. Ils font semblant qu'ils lèvent la main. Et doucement, doucement, ils baissent la main. Ces quatre copains, Félix, Haïm, Dominique et Ferdinand. Ils font tac, 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 ils s'assoient par terre et ils ressortent les cartes, le poker. L'autre à côté, bien sûr, lui, il porte pour quatre, puisque les quatre, ils jouent aux cartes. Il est en train de... Et ça dure comme ça pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Et il tape le carreau. Tiens, passe-moi une bière. Alors, Haïm, au bout d'un moment, il est angoissé. Il dit, attends, moi, je peux pas jouer, moi. Il y a l'autre, il est en train de crever, là, il suit la mort. C'est comme... Tellement il n'arrive pas, il peut même pas se raser parce qu'il peut pas se lâcher les mains. Alors il a une barbe comme ça, on appelle un religieux, d'accord. Il n'a pas le temps de se raser, d'occuper jour et nuit à étudier la Torah. Et eux, ils se tapent le carreau, puis à un moment, ils me disent, c'est pas possible, comment on va faire? Après, c'est ça le problème. Cette plaque-là, elle s'appelle la responsabilité des Juifs. Dans le bon Dieu, il l'a déposée sur nous. Il n'y a aucun mur qui nous soutient, seulement nos bras. Normalement, il faut la diviser en 14 millions. C'est le nombre de juifs. Mais il y en a beaucoup qui jouent aux cartes. Pendant que les autres, ils portent la plaque. Ils la portent, ils crèvent sur cette plaque. Oh, toi, tu te manques de finir avec la prière, la prière, la casserole. Sois cool, arrête avec cette religion, arrête avec ces contraintes, arrête. C'est vrai, tu as raison, c'est exagéré. La Kashrout, 37 000 lois. La Limouda Torah, 2040 pages. La Stéphane, 3300. Et arrange la jupe, ferme le bouton, fais attention, mets les collants. Après, apprends la prière, apprends la traduction, après le Moussa, remets-toi en cause tous les jours. Après, la Chod de Shemitah, la Chod de Kashrout, Bassa Vechala. C'est trop. Fais-moi une religion simple. Kashir. Tu manges Kashir. Kipoudabel. Coupe de bain. Coupe de Ben. Ouais. Ça suffit. Le reste, c'est rien que des inventions des rabbins. On les connaît, les rabbins. Coupe de Ben. C'est une traduction tunisienne de Coupe de Ben.
Votaille, écoutez-moi bien. C'est vrai, la religion, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de remises en cause. Il faut se jeter à la mer, c'est vrai, c'est vrai. Attention, Baba. Les eaux étaient pour eux une muraille de protection. Choma, c'est protection. Donc, tu crois que le religieux, maintenant, il se casse la tête comme un fou pour rien? Tu crois qu'il se casse la tête à toutes ces prières qu'il fait pour ses enfants et tous ces efforts, c'est pour rien? Mais quand toi, tu viens avec ton fils, tu dis, écoutez, monsieur le rabbin, j'ai un problème. Mon fils, il a 14 ans, il fume du shit, il a déjà 3 copines, il a un copain aussi, il a Internet, il a 2 portables, toute la nuit, on ne sait pas ce qu'il fait sur le truc. Il veut arrêter l'école, il est en échec scolaire. Qu'est-ce que la Torah propose? La Torah, elle proposait un programme qui commence 20 ans avant la naissance du petit. D'abord, tu t'éduques à toi. Après que tu t'es éduqué à toi, tu t'es préparé à toi, tu t'es construit à toi. Après, quand tu vas avec ta femme, tu as choisi ta femme. Après, tu as fait la choupa, tu as fait la kedusha, tu as fait la nida. Après, tu vas avec elle, ta semence, elle est comme toi. Elle est claire, elle est nette, elle est propre. Et après, le bébé, il va ressembler à tout ça. Toi, tu dis, non, moi, je fais n'importe quoi. Je délire, je déchire, je traîne, je baba. Et à l'arrière d'un break, je conçois l'enfant un samedi soir. Après 9 vodka, et si Dieu veut, il va être un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dibli Neder. Tu vas être embêté s'il devient un proxénète. Ouais, c'est impossible. Ils s'en foutent, les gens. Tu crois que le religieux, il fait tous ses efforts pour rien? Mais tu t'es fou. Mais tu crois qu'il y a quelqu'un pour crever comme ça? Il s'enferme, il fait exprès de ne pas acheter la 4e piscine et de ne pas s'éclater. Non, il y a encore quelqu'un qui révise encore la Guémara une 100e fois et il se remet en cause une 10e fois et il cherche à faire le kiddush avec plus de kavana. Tu crois rien pour rien? Rien. Toi, t'es un malin, toi, t'as tout compris. Mais lui, c'est un bref. Il ne connaît pas la vie, il ne sait pas qui fait. Oui, va maï, maïa la haine. Homa. Attention, mais les eaux qui sont Homa pour lui, pour toi, ils sont Hema, les mêmes. Pourquoi? Parce que quand toi, tu profites du coup toute sa vie, mais t'as pas compris, son sroute à lui, pour toi, c'est Hova. Ben, c'est normal. Parce que si toi, si lui, il a crédit, ça veut dire que toi, t'es en déficit. Et ouais, d'où il te vient ton crédit? Il te vient de ses efforts à lui. Sauf que ça, c'est un crédit. Le crédit, il faut commencer un jour. Maintenant, quel est le taux du crédit? Je l'ai dit déjà à l'époque de Rosh Hashanah, je m'en rappelle. Peut-être que vous ne vous rappelez pas, mais moi, je m'en rappelle. Pourtant, j'ai fait plus de cours que vous depuis Rosh Hashanah. Donc, je vous ai dit que les lacunes de l'année dernière vont te donner le programme de l'année prochaine. Vous avez compris ou non? Vous n'avez pas compris? Pour réussir un deuxième mariage, il faut d'abord réussir un premier divorce. Parce que sinon, tu vas avoir exactement les mêmes problèmes. Tu changes de femme, mais tu n'as pas changé de mec. Manque de peau, c'est toi. D'accord? Donc, tu te retrouves avec les mêmes histoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, on paye toujours. Tu payes. Tu fous rien à l'école. Tu vas avoir un métier débile. C'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Tu ne veux pas travailler tes midotes. Le bon Dieu va t'envoyer une femme qui va t'obliger à travailler tes midotes. Ah bon? Tu dis, tu es menteur. Alors personne ne te croit. Mais c'est normal. Il faut payer. Va ma imaya la haine. Hema. Mimina mon mismola. Que tu sois de droite ou que tu sois de gauche, mais chef, tu vas finir dans Kadima. D'accord? Mais c'est quoi la logique? La logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, en vérité, elle doit pas croire que le monde, il est gratuit. Ouais. Donc, vous avez compris. Il y a la mer devant nous. Ça veut dire quoi? Il y a des situations où l'homme, il est obligé de faire un choix. Et après, ça va dépendre comment tu veux faire. Est-ce que toi, tu veux plonger et la mer, elle va s'ouvrir? Ou non, tu veux que l'autre, il plonge? Alors l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il compte sur sa femme. Attention. L'autre, il compte sur son mari. Elle compte sur son mari. Attention. L'autre, il compte sur ses enfants. Attention. L'autre, il compte sur son père. Attention. Tu dis, ouais, mon prochain. Mon père, il assume tout. Je suis tranquille. Mais t'as pas compris. L'effort que ton père, il a fait, il est bon pour lui. Mais pour toi, il est mauvais. Parce que son effort à lui, pour toi, il est Roma. Il est le contraire. Parce que plus lui, il est indépendant, plus ça prouve que toi, t'es un pauvre type. Encore ce matin, j'ai ton téléphone là. Un type, il me téléphone. Il me dit, voilà, Rav, je suis un chidour avec une fille. Bon, elle s'énerve parce qu'on a 15 ans de différence. Je dis, bah écoute,
Elle n'a rien fait, la pauvre, elle n'est pas maudite. Elle a 21 ans, lui, il a 36 ans. D'accord ? Alors, il dit oui, elle n'arrête pas de rabâcher à cause de l'âge. Je dis écoute, JH2, c'est une formule chimique, ça veut dire jeune homme au carré. D'accord ? Je dis écoute. Au lieu de te concentrer sur elle, comment ça se fait qu'elle n'arrête pas de te parler de ton âge, mais ton âge, c'est un problème ? C'est un inconvénient ou c'est un avantage ? Il me dit, c'est un inconvénient parce que j'ai 36 ans, c'est pas facile de se marier, les filles tout de suite me demandent l'âge, et moi je veux une fille jeune, je veux pas me marier avec une vieillasse. Monsieur, il est exigeant. Ouais. Je dis, maintenant écoute, au lieu de subir ton âge, pourquoi tu ne profites pas de ton âge ? Il me dit, que ça veut dire quoi, profiter de l'âge ? Je dis, c'est très simple. Elle, en vérité, elle a 21 ans, donc elle a peur. Mais toi, Baruch HaShem, tu as 36 ans. Eh bien, rassure-la. Mais si toi, tu rentres dans la polémique avec elle, ouais. Mais pourquoi elle s'occupe de ça ? Je suis mignon, je suis gentil, j'ai une situation. Qu'est-ce que ça peut lui faire si je suis âgé ? Au lieu de rentrer dans la polémique avec elle, puisqu'elle est en train de paniquer, donc t'as qu'à la rassurer, puisque t'as 36 ans. Mais si tu rentres dans la polémique, en vérité, c'est parce que t'assumes pas. Si t'assumes pas, c'est que t'as pas 36 ans. Donc elle a raison d'avoir peur. Puisque t'as pas 36 ans, alors que t'as 36 ans.
T'as compris ou non ?
Je dis alors profite, parce que toi, par hasard, que le bon Dieu t'a envoyé une fille jeune comme ça, c'est qu'au fond, tu as beaucoup de choses à régler. Pourquoi tu veux une jeune ? Parce que tu as beaucoup de choses à régler. Donc le bon Dieu t'a dit, tu sais quoi ? Je te donne un défi. Voilà, si tu arrives à convaincre cette fille, c'est que tu es convaincant. Si tu es convaincant, c'est que tu es rassurant. Si tu es rassurant, c'est que tu es rassuré. Mais en réalité, toi, tu n'es pas rassuré. Donc tu as un gros problème de confiance en toi. Donc maintenant, la vie, elle t'envoie quoi ? Des occasions de régler tes problèmes. Maintenant, toi, tu peux rentrer dans l'occasion et dire « Oui, comment ça se fait que... ?» Mais non. Le bon Dieu, il te donne des outils. C'est comme un cheval d'arceau. Vous savez ce que c'est un cheval d'arceau en gymnastique ? Vous savez, non ? C'est un truc comme ça, comme un cheval en cuir, avec des pieds en fer. Ouais ? Ah non, c'est à peu près cette hauteur. Vous courez et vous faites hop, comme ça. Tac. Cheval d'arceau, ça va ? Cavaliero d'arceau. Cavallo de d'arcio.
Cavallina.
D'accord. On va y arriver. Qu'est-ce que j'ai pas fait en Italie ? Bon, alors ça veut dire quoi l'idée ? Écoutez bien. Le professeur, il te dit, vas-y, saute. Tu dis, attendez, monsieur, je vais sauter, c'est pas la peine de me mettre ce grand cheval devant moi. Il dit, non. Si tu sautes, tu vas sauter 1m80. Avec ça, tu vas sauter 2m40. Oui ? Maintenant, une épreuve. Oui ? Tu peux t'écraser la tronche dessus ou tu peux t'en servir pour sauter plus haut. Ça va ? Maintenant, toi, tu as la mer devant toi. Des fois, tu as vraiment la mer devant toi. C'est la mer de tes enfants. Tu dis, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu ? Ça, je vous ai dit, c'est un grand conseil de Shalom Bayit. Au lieu d'entrer dans la polémique, ma femme, mon mari, mes enfants, les nerfs, le business. Non, quand tu as une situation devant toi, que cette situation soit représentée par ta femme, ou représentée par ton mari, ou représentée par tes enfants, ou représentée par le rabbin, ouais, au lieu de rentrer dans la situation, tu dis, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu ? Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu aujourd'hui avec ma femme ? Qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui avec mon fils ? Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu avec le business aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Vous me suivez ou non ? C'est clair ? Des fois, c'est qu'est-ce qu'il veut dire cette radio ? T'as une radio ? T'as fait une radio ? Elle est bizarre. On n'arrive pas à diagnostiquer. Comme si le bon Dieu disait, tu dis, mais bon Dieu, c'est quoi ? Alors le bon Dieu, il dit, t'as qu'à réfléchir, toi ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Alors, tu dis, mais justement, je te posais la question à toi. Il dit, mais je te renvoie la question à toi. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Et toi, tu réfléchis. Peut-être j'ai dit, peut-être je ne suis pas au niveau. Peut-être le bon Dieu, il me dit, puisque tu ne trouves pas du temps pour réfléchir, moi, je vais trouver du temps. Les gens disent, j'ai pas le temps. Alors le bon Dieu, il te prend ton agenda, il te met 6 mois au lit. Allez, hop, va réfléchir, je vais trouver du temps, moi. C'est-à-dire que si toi, tu es capable d'interpréter qu'est-ce que la vie, elle te dit. Donc au lieu de rentrer en polémique avec la vie, avec ta femme, avec tes enfants, avec des... Vous voyez, on est tous devenus des acupuncteurs. Chacun, il pique sa femme, tac, 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 tac. L'autre, il pique son mari. On est tous avec des aiguilles, comme ça, on va chez le rabbin. Alors, tu dis, j'ai une situation devant moi. Quel est le message derrière ? La parole à ça, c'est un message. Le bon Dieu, c'est... Quand ça marchait très bien, t'as oublié de dire merci. Alors maintenant,
Wallo. Enfin, je comprends pas, j'assure, Wallo. Quand ça marchait bien, vous comprenez, c'est ma force des ventes, c'est ma capacité, c'est mon choix, c'est mon génie. Et tout le monde était là, oh bravo, oh vraiment bravo. Et là, c'est la mort. C'est les mêmes produits, c'est les mêmes vendeurs, c'est la même communication. Il n'y a pas un téléphone qui sonne. Wallo. Et tu regardes dans le ciel, tu vois un nuage avec une forme visage, on dirait un visage avec une main devant qui fait. Ou alors un autre petit nuage qui passe devant comme ça. Hey. Je l'ai déjà dit, quand ça va bien, il faut dire merci. Quand ça va, il faut dire merci. Comme ça, quand ça va pas, tu sauras vers qui te tendre. Mais si quand ça va bien, tu tends vers toi, quand ça va pas, tu vas aller chez qui? Tu tapes sur la concurrence, tu tapes sur ta femme, tu tapes sur ses enfants. Non, Baba. Quand ça va bien, c'est le bon Dieu. Et quand ça va pas, c'est le bon Dieu. N'aie pas peur. C'est la logique. Ici, c'est comme ça. C'est qu'une personne, elle comprend que les choix, ils sont là pour la faire grandir. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on voudrait que si Dieu veut, on n'ait pas de choix. Mais c'est impossible. Parce que s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'occasion de grandir. Maintenant, un choix, ça crée un malaise. Parce qu'on t'oblige à choisir, on t'oblige à grandir, on t'oblige à évoluer. Alors, les gens, ils disent, vous savez, je suis très embêté, parce que il y a deux possibilités. Bon, il y a le choix A et il y a le choix B. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, ben, j'en sais rien, moi. Il me dit, oui, mais vous. Alors, il me dit, mais moi, à votre place. Il dit, vous, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Je dis, je suis pas à ta place. Non, mais vous, avec une femme comme ça, je dis, ah, j'ai pardon. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Mais je suis pas à ta place. C'est toi qui dois être à ta place. Maintenant, je peux t'aider. Je peux élargir ta réflexion. Je peux donner des argumentaires. Je peux objectiver ton choix. Je vois que tu as développé ça et ça, mais ça t'a pas réfléchi. Jusque quoi? Tu as tous les éléments de faire le choix. Mais le choix, il est pour toi. Parce que le choix, il est pour que tu grandisses toi. Alors, si moi, j'assume ton choix, toi, tu grandiras jamais. Et toi, tu vas assumer le mien, moi. C'est impossible. Donc, la question est comme ça. Quand on a un choix, devant soi, il y a A et B. D'accord. Donc, vous avez remarqué un truc bizarre. Dans le A, il y a des avantages et des inconvénients. Et dans le B, il y a des avantages et des inconvénients. Pourquoi le bon Dieu, il n'a pas fait des choix où A, il est tout blanc et B, il est tout noir? Eh non, c'est pas un choix. Le Yetzirah, il est sourd, mais il est avantageux. Le Yetziratov, ouais, il est permis, mais il n'est pas avantageux. Le chemin tordu, il est facile au début, mais dur à la fin. Tu dis, on verra plus tard. Le chemin droit, il est dur au début et facile à la fin. Mais on est pressé d'avoir les résultats. Nous, notre problème avec les jeunes aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils veulent de l'argent tout de suite. Tu dis, bon, écoute, un juif, il est obligé d'être bon. Ou il va être un grand ami Faham, ou il va être un très bon businessman. Un des deux. Mais dans les deux cas, il doit être bon. Il dit, moi, je m'en fous. Haddal mimeno. Oui. Tov lanou, motenou bamidbar. C'est mieux pour nous de mourir dans le désert. Pourquoi faire des études longues? Et pourquoi se casser la tête? Et pourquoi réfléchir? J'ai pas envie de réfléchir. J'ai envie de kiffer. J'ai envie de m'amuser. J'ai pas envie de sortir d'Égypte. Alors tu dis, pourquoi? Écoute ce langage, il te dit, eh ben, j'ai envie d'être libre. Je veux pas des contraintes. Je veux pas être enfermé. Mais t'as pas remarqué le contraire? Qu'on ne peut être libre que quand on accepte ses limites. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent la notion de la limite. Et ils sont encore plus esclaves. J'arrête l'école. Pourquoi t'arrêtes l'école? J'en ai marre des interros, j'en ai marre des profs, j'en ai marre des horaires, j'en ai marre des mots de retard. D'accord? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je veux bosser. Travaille. Ah, maintenant tu travailles. Les horaires, horaires. Le surveillant général, il est devenu le patron. Le chef du personnel, il est devenu le prof. Et attention les résultats. Là, tu te plantes. T'as zéro à l'interro. Là, tu te plantes, tu es dehors. Là, baba, les cicatrices sont profondes. Donc, en vérité, toi, tu voulais éviter les limites, ouais. C'est les limites qui te rattrapent. Pourquoi? Parce que dans la vie, on est toujours rattrapé par ce qu'on fuit. C'est pour ça qu'il ne faut jamais fuir. Parce qu'on est rattrapé par ce qu'on fuit. Tu fuis tes complexes, ils te rattrapent. Tu fuis la vérité, elle te rattrape. Tu fuis l'honnêteté, elle te rattrape. Tu fuis les efforts, ils te rattrapent. Donc il ne faut jamais fuir la vie. Il faut l'accepter, il faut grandir. Maintenant, le bon Dieu, il t'a mis une mère devant toi. Aujourd'hui, c'est le bac. Demain, il t'a mis une mère devant toi. C'est un enfant qui est né. Demain, il t'a mis une mère devant toi. C'est que ta femme, elle n'est pas bien en ce moment, elle a une déprime. Ben, c'est ta femme, tu dis pas. Ah, puisqu'elle est déprimée, c'est plus ma femme. Mais même le maire Goy, il t'a dit pour le meilleur.
et pour ta belle-mère. Et pour le pire, d'accord. Donc, tu as pris les deux. C'est comme ça la vie. 17 logique, c'est quoi? C'est que tu vas être en phase de choix, et dans les choix, il y aura du bon et du mauvais. Il y en a toujours du bon et du mauvais des deux côtés. Alors moi, je pose une question idiote. Pourquoi il y a toujours du mal dans le bien? Si un Belge vient chez moi, par exemple, ouais, il me dit, imaginez, je suis rentré sur un terrain en Belgique, un champ, j'ai creusé la terre et j'ai trouvé une boîte en bois. Je l'ai ouverte et dedans, il y avait une boîte de McDo avec des frites chaudes. Frites. Je dis, ça n'est pas possible. Il me dit, mais pourquoi pas? Dieu est capable de tout. Je dis, Dieu n'est pas belge. Pourquoi? Rabotaille. Eh bien, je m'excuse si je vous fais de la peine. Vraiment, parce qu'il est tard et j'ai vraiment de la peine, mais je vais vous le dire quand même. Vous savez, quand vous allez dans un champ, les patates, elles sont dans la terre. Et elles sont pleines de terre. Et il faut les laver. Et il faut les éplucher. Et il faut les couper. Et il faut les faire frire. Et il faut une assiette pour les présenter. Ça n'existe pas, les patates frites dans la terre. Ça n'existe pas. C'est comme si quelqu'un te raconte, tu sais, oh, j'ai lu un truc sur Internet incroyable. Il y a un type là-bas, en pleine jungle amazonienne, il a creusé pendant 340 mètres de profondeur et il a trouvé une mine de diamants taillés. En probabilité, d'après les scientifiques, c'est possible. Déjà, le Big Bang, il est venu par une explosion. Alors, on peut imaginer une mine de diamants taillés à 430 mètres de profondeur. Tu dis, c'est pas possible. Une mine de diamants taillés, c'est ce qu'on appelle vulgairement une bijouterie. En général, c'est la hauteur du sol, tu vois. Ça s'appelle Place Vendôme, c'est très connu à Paris. Les bijoux, ils sont exposés, ils sont là. Ça n'existe pas une mine de diamants taillés. Les diamants, il faut creuser, il faut les trouver, il faut les ramener. Il faut les négocier, il faut revenir entier parce que les Africains ils peuvent te couper les deux mains, ouais. Et après les négocier, après les tailler et après les revendre. C'est ça vient du sport. Ton mari, c'était une patate. Pour en faire des frites, ça a pris du temps. Ta femme, elle avait pas la frite, ouais. Pour en faire une femme bien, ça a pris du temps. Tes enfants, ça a pris du temps. Ça prend du temps la vie. Ça prend du temps. Alors tu sais pourquoi il y a du mal dans le bien? Écoutez bien, c'est un grand ridouche. Parce que le chemin d'accessibilité au bien dans un choix, c'est le mauvais. Pour arriver au bien dans quelque chose, il faut passer par le mal. Mina Rocher Yotse Or. Par exemple, j'ai un exemple. C'est pas votre cas, mais un exemple. Imagine un type, il parle très facilement. Mais il a une femme qui est coincée de chez coincée, qui a un grave problème de communication, limite autiste. Déjà au Chidour, on lui a dit qu'elle est très très réservée. Mais il aurait dû se douter parce que très 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 réservée, ça veut dire. Ça fait 8 ans qu'elle n'a pas ouvert la bouche. Ouais. Et lui, il a un débit, le radio pirate. Maintenant, elle parle peu, mais elle dit toujours la vérité. Lui, il parle beaucoup, mais il dit rarement la vérité.
Elle dira.
Il dit rarement la vérité. Rarement. Ouais. Rarement la vérité. D'accord? Maintenant, donc comme il parle beaucoup, il s'énerve parce qu'elle ne parle pas. Alors il s'énerve. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne parles pas? Je comprends rien. Et dis-le, parce qu'il ne va pas. Ouvre ta bouche, ouvre ta gueule. Alors elle est plus et plus crible. Elle est devenue asthmatique. Qu'est-ce qu'il y a? Même le son, il rentre. Donc lui, il a vu son rave, il a vu un psy, il dit écoute, elle t'adore, c'est une chance pour elle, tu peux l'aider, elle a beaucoup souffert, parle-lui gentiment, crée la confiance, 99% d'amour, 1% de médicaments, ouais, et de la patience et de la douceur. Et l'autre de ce mois, elle dort, elle a deux mots, trois mots. Il dit mais je sais pas, mais elle n'arrive pas. Il dit ben tu sais quoi, il va falloir que tu parles sincèrement. Il dit je sais pas faire ça, je suis un menteur professionnel. Il va falloir. Alors tu essayes, il s'essaye. À la fin, il arrive à lui parler avec calme, avec douceur, avec sincérité. Et là, d'un seul coup, son cœur il s'ouvre. Elle se met à parler. Elle parle bien. C'est extraordinaire. Du coup, lui maintenant, il parle plus trop.
parce qu'il réfléchit avant de parler. Et elle, elle parle trop. D'accord. Mais elle parle bien. Tu vois que son tikkun à elle, c'était son tikkun à lui. Le bon Dieu ne s'est pas trompé. T'as compris cette logique-là? C'est-à-dire, toi, tu crois que c'est elle qui a un problème. Un jour, tu vas dire, mais pourquoi le problème, il est arrivé chez moi par elle? Parce que moi, je règle ce problème-là. Maintenant, lui, il a un problème. Maintenant, pour toi, c'est un problème. Maintenant, toi, au lieu de dire, mon mari, il est comme ça, tu devrais dire, si le bon Dieu m'a envoyé ça, c'est-à-dire que moi, j'ai un travail à faire avec ça, alors je vais le faire. Maintenant, c'est un travail pour lui et pour elle. Maintenant, les efforts que tu as faits dans ce que tu appelais les défauts de ton couple, c'est ce qui a fait atteindre le bon du couple. Ce que toi, tu appelles les défauts de l'école, c'est ce qui t'a donné les qualités de l'école. Parce que les contraintes, les remises en cause, les obligations données à une certaine date, les nerfs, la révision, tous les défauts de l'école, c'est ce qui t'a donné les qualités qui sont sorties de l'école. Tous les défauts du business, c'est ce qui t'a donné les qualités du business. Vous me suivez ou non? Donc, dans tous les choix, il y a du mal et du bien. Pourquoi? Parce que la seule manière d'atteindre le bien, c'est de lutter contre le mal qui est dans le choix. Maintenant, si dans un choix, il n'y a pas de mal, ça veut dire que le mal, il est déjà assumé par quelqu'un. Or, celui qui assume le mal du choix, c'est lui qui va grandir avec le choix. Donc, toi, en vérité, tu n'as pas le choix. Ça va? Alors, si c'est ça, j'ai une minute encore ou j'ai dépassé le temps à partir? Ça va exploser, il va se passer quelque chose? Écoutez bien ce hidouche. Ça veut dire qu'en vérité, dans la réalité qui est devant nous, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner des centaines et des centaines de choix. On aura des milliers de choix à faire. C'est pour ça qu'il dit le Rav Tesler qu'un homme, c'est un dayan. En vérité, un homme, c'est un juge. Oui, et un juge, il doit trancher la loi. Et maintenant, le fait de trancher la loi, ça va faire qu'il va trouver la loi qui est nécessaire pour les gens. Mais lui, il va grandir de plus en plus dans sa capacité de trancher la loi. Donc le dayan, il profite et il fait profiter. Non, c'est pareil, toi. Plus tu prends des décisions dans ton boulot, plus tu deviens un grand décisionnaire. Toi, plus tu vas assumer ton rôle de parent, et plus tu vas devenir un père et une mère. Maintenant, toi, plus tu vas assumer ton rôle de juif, et plus tu vas grandir dans ton judaïsme. Maintenant, si tu te débrouilles, tu dis, oh, vous savez, oh, chez nous, on n'a pas de problème de cache-route, hein. Et puis, on s'est débrouillé pour les vacances. Et puis, on s'est débrouillé pour Pessah. Et puis, on s'est débrouillé. C'est marrant, t'es le même goy qu'il y a 20 ans. Même goy. Il y a des questions, il y a des réponses. Il y a des problèmes, il y a des solutions. On va trouver. On va faire. Mais si tu te débrouilles tout le temps pour avoir des solutions, donc, tu viens pas profiter du problème. Or, qu'est-ce qu'on grandit avec le problème ou avec la solution?
Avec le problème. L'expérience.
Les gens, ils prient pour avoir vite des solutions. Il faut des solutions. Mais il faut que tu aies le temps de profiter du problème d'abord. Parce que le problème, il te fait grandir. Donc, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis les Bnei Israël devant la mer avant de leur donner la Torah? Pour leur dire, sachez que dans toute l'histoire d'Israël, il y en aura beaucoup d'élèves. Il y aura l'Inquisition. Il y aura la Shoah, il y aura la destruction du temple, il y aura la destruction de la Torah, il y aura l'assimilation, il y aura les mariages mixtes, il y aura la souffrance, il y aura l'ignorance, il y aura la bêtise, il y aura les problèmes de Parnassa, il y en aura des mers à traverser. Et vous allez être toujours dans la même situation. Retournez en arrière, vous ne pourrez pas. D'accord? Allez à droite ou à gauche, il n'y aura pas. Il n'y aura rien que devant. À dire, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il n'y aura rien à faire. Il faudra plonger et nager. Alors, plonger, c'est accepter que la situation, elle est pour toi. Ne pas dire c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui, c'est à cause du rabbin. Ça. Accepter que la situation, elle est pour toi. Numéro 2, il faudra nager. Maintenant, je vous le dis tout de suite.
Ouais.
Nager, ça veut dire quoi? C'est que la solution, c'est de se mélanger avec le problème. Vous rappelez ça, j'ai expliqué ça plusieurs fois ici, non? Vous rappelez ou non? Comment ça se fait que quand on a un problème, quand on a la solution, il n'y a plus de problème? Les gens ils disent, mais enfin c'est évident, quand il y a la solution, il n'y a plus de problème, puisque quand il y a la solution, il n'y a plus de problème, c'est vrai? C'est faux. Moi je vois des gens, ils ont des problèmes. Je leur donne des solutions, ils gardent les problèmes et les solutions. Ils me disent, je n'ai pas fait ce que vous avez dit, mais ça n'a pas marché. Oui, ouais, c'est bien.
Allô?
Le mot solution, il a deux sens. Il veut dire la solution du problème. Il veut dire aussi un mélange. C'est une solution. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, la solution apparaît quand toi, tu te solutionnes avec le problème.
quand toi tu te mélanges avec le problème, quand toi tu assumes le problème, la solution apparaît. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, la solution n'existe pas. La solution, c'est le niveau de maturité que tu vas atteindre grâce au problème. Maintenant, quand tu assumes le problème, parce que tu rentres dans le problème, et tu nages dans le problème, et tu acceptes le problème, comme ça te fait grandir, alors maintenant le problème disparaît, parce que c'est toi la solution. Maintenant, nous, on voudrait des solutions qui nous évitent d'avoir à grandir. Parce qu'on a peur de mourir dans le désert. On préfère rester dans l'esclavage de nos limites. Mais la Torah te dit, tu sors d'Égypte, tu vas dans le désert, et quand tu seras dans le désert, tu reçois la Torah. Ben, c'est la fin du pasouk. Juste le pasouk d'après, c'est marqué. Quand les ministres étaient en train de pleurer, d'ailleurs, Mère Moshe et l'Aram, Moshe, il a dit au peuple, Al Tiraou. Attention, vous avez compris que Mashiach, c'est la même chose, c'est aussi une mère. On ne va rien comprendre ce qui arrive. Gog ou pas Gog, des souffrances, des malheurs, des peurs, du bien, du mal. On ne sait pas. Al Tiraou, n'ayez pas peur. Itiatsvou, mettez-vous debout. Ur ou et Yeshua Tachem. Et regardez la délivrance d'Hachem. Asher Yahase Lachem Ayom. Quand c'est marqué Ayom, ça veut dire pour toujours. Chaque situation, Hachem y fera la délivrance. Qui Asher Yitem et Mitzraim Ayom. Parce que l'Égypte que vous avez vue aujourd'hui, c'est-à-dire les limites que vous avez vues aujourd'hui, ouais. L'otosifu lir otam od ad olam. Vous ne les verrez plus. Vous savez quoi, vous ne les verrez plus ? C'est-à-dire que quand tu as dépassé un stade de maturité, les problèmes d'avant, tu ne les verras plus. C'est une garantie que la Torah t'a donnée. Ouais. C'est comme toi, quand tu commences le business, tu as des soucis. Après, au bout de 3 ans, quand ton collègue il commence le business, il te dit « Ah, tu sais, j'ai ça », tu lui dis « C'est rien, baba. Moi, je suis en bourse, maintenant, tu t'engueules pour ça. » Quand tu es dans la classe de 4e, tu dis « C'est difficile, l'école. » Mais quand tu arrives en seconde, et tu dis à ton frère « Tu t'engueules pour la 4e, mais c'est rien la 4e à côté de la seconde. » Moi, je me rappelle, j'étais en seconde. Le professeur, il m'a dit « Mais comment ça se fait, monsieur Benchekrit, que vous ne vous angoissez pas ?» Je dis « De toute façon, pourquoi je vais m'angoisser aujourd'hui ? Puisque l'année prochaine, je penserais que cette année, c'était nul. Donc, je fais comme si on était l'année prochaine. On va dire « T'as haram. » C'est toute la vie, c'est comme ça. Pourquoi je vais m'angoisser aujourd'hui alors que je sais que la Yeshua, elle est juste derrière ? Donc maintenant, j'ai un problème avec cet enfant. Je sais que le pendule me pose une question. J'assume. Quand j'assume, ouais, je vais voir la Yeshua d'Hachem. Ah, et qu'est-ce que je vais faire avec l'angoisse, le stress qu'elle me crée, cette situation ? Ouais. L'otosifu lir otam od adolam. Tu sais, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que on voit que les problèmes y reviennent. Les problèmes reviennent, c'est ce que tu n'as pas réglé. Ouais, ils viennent chez moi, les gens. Je dis, bon, écoute, arrête de parler mal à ta femme. Ah, Rabbi Chétri, je peux pas m'engager, c'est trop difficile. Je dis, mais est-ce que tu manges du porc ? Il me dit, Chaz Shalom. Je dis, mais est-ce qu'un jour tu as mangé du porc ? Il dit, bon, avant je mangeais du porc, mais bon, Hachem, j'ai fait tes chouvas, maintenant je mange plus du porc. Ah, je dis, pourquoi tu as pu t'engager à ne plus manger du porc et tu manges plus du porc ? Et maintenant, même pour 3 millions d'euros, tu mangerais pas du porc. Et tu peux pas t'engager à ne pas te mettre en colère. Ça veut dire que tu vois que quand tu as pris quelque chose sur toi, ouais. L'autre aussi fou les rocs, Adola. C'est fini. Donc en vérité, le vrai problème, il est où ? Il n'est pas dans la réalité du problème. Il est dans l'intensité du choix que tu as fait. Donc numéro 1, que ce n'est pas la peine d'essayer d'éviter les choix puisqu'ils vont arriver. Numéro 2, c'est que quand les choix ils arrivent, tu acceptes avec Emouna qu'ils sont pour toi. Et numéro 3, ne réfléchis pas, plonge. Assume. C'est pas la peine de dire, c'est à cause de l'école, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mes frères, c'est à cause de... Non, c'est ton fils, attaque, vas-y, travaille. C'est ta femme, travaille. Tu ne dis pas, ouais, c'est trop facile, tu ne te pas compte, tu ne la connaissais pas, travaille. Tu ne dis pas, la parnassa, travaille. Tu dis, ouais, en ce moment, la conjoncture. Dans conjoncture, il y a joncture. D'accord ? Le reste, c'est qui ? C'est toi ? Non, allez, avance. Travaille. Comprenez ou non ? C'est normal. Va, travaille, allez, vas-y. Et ben, tu vas t'adapter. Il y a un nouveau clientin, il y a un nouveau marché, il y a un nouveau truc. Va t'adapter, va développe, et ben restreins les dépenses et ouvre le marché, et ben prends ton téléphone toi, au lieu de rester comme ça, dire tout le temps aux employés, alors, les chiffres, prends le téléphone toi, vas-y bouge-toi derrière, c'est pas grave, ça change, des fois tu glandes, des fois tu travailles, ben c'est pas grave, putain, j'ai perdu l'habitude, alors crève, faut s'adapter, c'est pas grave. Cette logique, c'est les commandes elles doivent partir, et ben ramasse les cartons, ah tu dis mais c'est pas mon boulot, et ben la commande elle est pas partie, voilà maintenant t'as perdu 120 000 euros, t'es content maintenant? Va user un peu tes bras et ils vont partir, elle va partir à la commande. Et en plus, la motivation que tu mets, que tout le monde voit que tu te mets au travail, eux aussi se mettent. Ils travaillent 2-3 fois plus. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu plonges. Il y a une mer, tu plonges. Il y a un souci, tu plonges. Il y a une question, tu plonges. Quand tu plonges, le fait d'avoir plongé, c'est 90% de la solution. Ça va ?
Bon, alors qu'Hachem qu'il fasse, qu'on soit capable d'assumer nos choix, d'accepter que c'est les nôtres,
et de les vivre avec la Emouna, c'est-à-dire comme un bon juif.
Je m'excuse, j'ai dépassé de 10 minutes. Donc on dédie le cours. Les Ilou Nishmat de Yosef
Ben
Garaz.
Ben Garaz.
Yosef Ben Garaz.
Amen.
Et aussi pour
Chai Benjamin
Ben
Esther
Georgia.
Amen.
Vous dites Amen.
Yosef Ben Julia.
Et pour Yosef Ben Julia.
Amen.
Et on demande à Mavdi Ben Chaim Yemetim que le cours soit dédié pour tous les malades d'Israël, en particulier pour tous les gens qui ont été blessés pendant la guerre. Amen. Et je vais vous donner une série de noms, vous dites Amen avec une bonne kavana pour Avraham Shimon Ben Simcha.
Amen.
Pour Simcha Bat Flecha.
Amen.
Eliyahu Ben Aisha.
Amen.
Yitzhak Ben Aisha.
Amen.
Hana Bat Aziza.
Amen.
Gabriel Eliezer Ben Evlin Aziza.
Amen.
Rav Azimov.
Amen.
Rav Yosef Rav Obadia Yosef.
Amen.
Rav Yosef Rahim Ben Simcha Sitruk.
Amen.
Rav Eliashiv.
Amen.
Et Rav Mordechai Eliyahu.
Amen.
Il n'y a pas de malade à Milan?
Arlette
Bat Olga.
Amen.
Il faut répondre Amen. Sachez que je fais ça dans tous mes cours. Les gens, ils m'appellent le lendemain, ils me disent elle est sortie du coma. C'est pas pour moi, c'est de l'Amen des Bnei Israël. Tu as expliqué toi tout à l'heure. Le Amen des Bnei Israël, en plus après un shiur, c'est encore plus fort.
Clara
Bat. Bat Esther.
Amen.
Maria Bat Olga.
Amen.
Rina
Bat.
Elisa.
Amen.
Rita Bat Malka.
Amen.
Rina Bat Souza.
Amen.
Vera Bat Souza.
Amen.
Rina Bat Elisa.
Enat
Bat
Aliza.
Amen.
Rivka Basha Bat Chaya Hana.
Amen.
Ah, j'ai oublié de vous dire que Bezrat Hashem.
Bracha
Bat Esther. Kachem envoie une fois chez les femmes. Menachem
Mendel Ben.
Menachem Mendel Ben.
Menachem
Mendel
Ben.
Menachem Hillel Ben Rivka. Je voulais vous dire que
Sion
Armando Ben.
Elisa.
Abraham Ben. Esmeralda.
Amen.
Kachem envoie une fois chez les femmes. Je voulais vous dire que Bezrat Hashem, je vais sortir Bekarov, mon deuxième livre. L'année dernière, il y a beaucoup de gens qui ont voulu participer. On a fait des dédicaces pour faire la mémoire de quelqu'un, pour faire pour la foi de quelqu'un, pour la slacha des enfants, ce que vous voulez. On met des pages à l'intérieur du livre. Les gens qui veulent, ils s'adressent à Madame Saada. Et on vous attache que vous puissiez participer. Bon, en fait, c'est le dernier livre. Il a très bien marché. On a diffusé plus que 8000. Et je peux vous dire que dans le monde entier, il y a eu beaucoup, beaucoup de teshuvah. Alors, si vous voulez vous associer au deuxième livre, vous attachez, c'est pas du tout sur le même sujet, mais... C'est un très bon livre, je pense. Il est un peu épais, mais il est bien.
Amen.
Hadak.